Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Des manifestants en colère contre l'ONU au Yémen, 4 morts dans des troubles anti-ONU en Centrafrique. L'ONU a du mal à financer son plan d'aide aux victimes du choléra en Haïti. Décidément, on peut rêver meilleur titre pour son 71e anniversaire. Les Nations Unies, dont c'était la journée le 24 octobre, ont grand besoin de redorer leur image. Et c'est dans cette optique que le bureau de Genève a lancé une nouvelle campagne de communication. Mais auparavant, on va s'intéresser à un chapitre sombre de l'histoire de la Suisse, celui des enfances dites volées. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Constance von Kötze au micro. Guten Tag, bonjour à toutes et à tous. En Suisse, jusque dans les années 80, des milliers d'enfants ont été arrachés à leurs parents au motif qu'ils étaient pauvres. Placés de force dans des institutions ou chez des paysans comme main-d'œuvre bon marché, souvent maltraités, humiliés, battus et même violés. Aujourd'hui, les victimes de ce qu'on appelle ces mesures de coercition à des fins d'assistance réclament réparation. La Suisse lève le voile sur cette période sombre et reconnaît leur souffrance. Un fonds d'indemnisation a été constitué. Un reportage de Katia Beach.
Joël Uldry habite un petit appartement au 5e étage dans un quartier de la banlieue de Lausanne. Il a 60 ans, de longs cheveux gris en queue de cheval et le visage marqué par une enfance chaotique.
On ne s'est pas occupé de moi, on s'en foutait. À l'école, je faisais rien, j'ai pas eu d'amour là parce que c'était toujours bonjour monsieur, bonjour madame.
Abandonné par son père, Joël est dans un premier temps élevé par ses arrière-grands-parents. Lorsqu'ils sont jugés trop vieux pour s'occuper de lui, Joël est placé à l'âge de 10 ans dans plusieurs familles de paysans où il sera exploité, humilié et maltraité.
Pour moi, c'était normal, j'ai toujours connu ça. Me lever à 4h le matin, faire ci, faire ça. Allumer les fourneaux, préparer de l'eau chaude pour les veaux, donner à manger aux veaux, sortir les fumiers. On devait porter des bidons d'eau pour aller les abreuver. Et tout ça, quoi. Moralement, physiquement et tout. C'est très dur. Hein.
Les années ont passé, mais les traumatismes de son enfance sont toujours là. Joël se ronge les ongles, visiblement nerveux à l'évocation de ce passé si lourd.
J'ai rien pu faire quand on ne savait pas ni écrire ni lire. Je sais un peu écrire, mais je ne serais pas capable d'écrire une lettre sans faute et tout. Ça m'a bloqué toute ma vie. J'ai rien pu faire dans ma vie. Je n'ai pas pu faire d'apprentissage ou quoi que ce soit. Puis moi, je ne suis pas stable. Je ne suis pas stable. J'ai tellement changé dans mon enfance, à gauche, à droite, ici, là, là. Je ne suis pas stable. Je n'ai jamais pu avoir un travail, rester à quelque part. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas stable. Ça me fait peur, ça.
Entre 1800 et 1980, on estime à 100 000 le nombre d'enfants élevés à la dure dans des institutions religieuses ou contraints au travail forcé en Suisse. Mais la Suisse n'est pas le seul pays à avoir mené ce type de politique. En Irlande, en Espagne ou encore en Allemagne également, les enfants des classes populaires étaient arrachés à leur famille pour les sortir de la pauvreté ou surtout pour éviter une rébellion des classes laborieuses. C'est l'explication avancée par l'historien Pierre Avanzino.
Début du 19e, on est quand même petit à petit dans des révoltes des classes laborieuses. Il va y avoir le Parti socialiste, la défense des ouvriers, l'émergence des syndicats. Et du côté des bourgeois, il y a quand même une peur de la sédition de ce milieu-là. Donc il faut le contrôler. C'est aussi un des aspects, un des volets de cette pédagogie-là. Est-ce qu'on a beaucoup pratiqué au 19e jusqu'à premier quart du XXe siècle, c'est la mise en vente, mise aux enchères à la baisse sur la place publique de ces enfants-là. C'est une manière de se débarrasser d'eux et de les mettre chez des paysans qui les faisaient travailler dans des conditions extrêmes.
Longtemps, les victimes ont gardé ce lourd passé enfoui en eux. Mais ces dernières années, les langues se délient. Clément Vielli a lui aussi été arraché à sa mère et placé dans différents orphelinats. Aujourd'hui, il préside Bonjour. L'association de défense des enfants placés, Agir pour la dignité.
Il faut qu'on fasse bouger les choses. Il faut bouger, quoi. Parce que c'est malheureux de laisser ces gens comme ça, quoi. Moi, je crois qu'on peut réparer. Et on doit réparer. Parce qu'on a tellement maltraité les enfants que ça fait boule de neige toute leur vie. Parce qu'ils n'avaient pas de connaissances, ils n'avaient pas de savoir. il n'y a pas d'affection. Et c'est des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui sont illettrés, qui sont analphabètes. C'est terrible, quoi. C'est moi, les gens que j'ai vus aujourd'hui.
Sous la pression des associations de victimes, la Suisse entame un douloureux travail de mémoire. Elle mandate une commission d'historiens. Le pays redécouvre avec effroi les heures sombres de cette politique sociale. Des mères célibataires jetées en prison, stérilisation, avortement forcé, internement abusif. En 2013, la Suisse présente ses excuses officielles aux victimes de ces mesures de coercition par la voix de Simonetta Sommaruga, alors ministre de la Justice.
Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées.
En plus de cette reconnaissance officielle, la Suisse débloque un fonds d'indemnisation de 300 millions de francs, soit environ 25 000 francs pour chacune des victimes encore en vie. Une faible compensation, estime Clément Vielli.
20 ans d'institution, privation des parents, abus sexuels, malnutrition, mauvaise connaissance scolaire. Et vous voulez qu'on vous donne 25 000 francs pour 20 ans pour ça? Non mais ils se moquent du monde, quoi. Et après, vous pouvez encore rajouter les mains de bon marché. Combien d'enfants, de jeunes filles ont travaillé pour l'après-guerre en 48 pour coudre tous les uniformes de l'armée? Ils ont fait ça. Ils n'ont jamais vu un sou. C'est inhumain.
Les mesures de privation de liberté à des fins d'assistance ont été abandonnées en 1981, quelques années après l'adhésion de la Suisse à la Cour européenne des droits de l'homme. En 2014, l'État français avait également présenté ses excuses et voté une résolution mémorielle. Vous écoutez la Deutsche Welle, c'est Vue d'Allemagne et on reste en Suisse pour parler du monde. L'ONU a soufflé ses 71 bougies le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, acte de naissance de l'organisation. Une organisation dont la réputation est à refaire. En tant que directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, le deuxième plus grand bureau après New York, Michael Müller ne se fait pas beaucoup d'illusions.
The perception of the UN.
Partout dans le monde, les gens ont plutôt une mauvaise image des Nations Unies, en particulier parce qu'ils ne voient que le Conseil de sécurité. Ils voient les guerres qui ne s'arrêtent pas, les épidémies qui ne sont pas traitées suffisamment rapidement.
Et c'est pour modifier cette image que Michael Müller a décidé de lancer une campagne intitulée « Projet de changement de la perception », un titre pas très sexy mais qui cherche à mettre l'accent sur les réalisations positives de l'ONU ces dernières années.
Tout ce qui est fait ici a un impact direct chaque jour sur chaque personne habitant sur cette planète. Nous avons diminué de moitié la mortalité infantile, diminué de moitié la pauvreté. Ce sont sans aucun doute des développements positifs. Et sans ce réseau que le monde a mis sur pied durant ces 70 dernières années, tout cela ne serait jamais arrivé. Cette organisation a été fondée pour créer une table neutre autour de laquelle tout le monde peut s'asseoir et discuter, peu importe que l'on s'aime ou que l'on se déteste.
Paix, droit et bien-être, c'est en s'appuyant sur ces trois objectifs que Michael Müller a lancé sa nouvelle offensive publique. Celle-ci s'accompagne d'opérations de communication ciblées et destinées notamment à la population de Genève. Des initiatives sympathiques, mais qui peinent cependant à cacher le fait que l'ONU est de moins en moins utilisée comme table ronde. Lorsque l'on voit la brutalité et le cynisme des conflits militaires actuels, on se dit que le multilatéralisme et le droit international ne pèsent pas bien lourd, même si de temps en temps, l'un ou l'autre bord fait mine de vouloir négocier. Hans von Sponeck en sait quelque chose. Il a travaillé pendant 32 ans pour l'ONU, notamment en tant que coordinateur humanitaire des Nations Unies en Irak. Mais en 2000, il démissionne pour protester contre les attaques aériennes des Américains et des Britanniques et les sanctions économiques draconiennes imposées à l'Irak. 16 ans plus tard, les grandes puissances sont toujours incapables de trouver des solutions communes au conflit et cherche encore à instrumentaliser l'ONU, selon Hans von Sponeck.
Au fil des années, il est devenu de plus en plus clair que les représentants au sein du Conseil de sécurité n'ont pas la capacité de jeter leur manteau national et de mettre leur chapeau multilatéral.
Jusqu'ici, les tentatives de réformer le Conseil de sécurité ont toujours buté sur la résistance de ses 5 membres permanents, mais imputer le manque de crédibilité de l'ONU au seul Conseil de sécurité serait une erreur. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un secrétaire général plus charismatique constituerait aussi une avancée. Et quand Hans von Sponeck parle du bilan de Ban Ki-moon, le secrétaire général sortant, il est clair.
Ban Ki-moon is un peu comme un ping-pong ball.
Ban Ki-moon, c'est un peu une balle de ping-pong sur les vagues de la politique. Il a été balancé à droite, à gauche, et c'est le lot de tous les secrétaires généraux. Mais un secrétaire général doit essayer d'intégrer un moteur dans sa balle de ping-pong pour pouvoir ensuite au moins mettre le cap sur la direction dont il pense qu'elle est la bonne.
En 10 ans à la tête de l'ONU, Ban Ki-moon, candidat du compromis, ne s'est jamais officiellement opposé à quelqu'un. Une posture qui a eu des conséquences dramatiques. En octobre 2010, lorsqu'une épidémie de choléra s'abat sur Haïti, des expertises scientifiques laissent rapidement penser que les casques bleus en service sur l'île sont à l'origine de l'épidémie. Depuis, 10 000 personnes sont mortes du choléra, une maladie qui n'existait pas avant cette date dans le pays et qui, depuis le passage de l'ouragan Matthew, menace de faire de nouveau des ravages. Pendant des années, l'ONU et son secrétaire ont contesté la responsabilité de leurs troupes. Même chose avec les cas documentés d'abus sexuels sur des enfants par des casques bleus français en République centrafricaine. En janvier 2017, Ban Ki-moon cédera sa place à Antonio Guterres et déjà les espoirs mis en lui sont énormes. L'ancien Premier ministre portugais bénéficie d'une bonne réputation au sein de l'ONU et passe pour quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer critique, même vis-à-vis des pays dont l'ONU dépend financièrement. L'avenir dira s'il peut rendre à l'ONU ce qui appartient à l'ONU. Merci à Claudia Witt pour les sons sur les Nations Unies. Merci aussi à Katia Beach pour son reportage sur les enfants maltraités en Suisse. Vous retrouverez cette émission au complet sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique médiathèque. Et pour nous écrire, il vous suffit de nous envoyer un mail à français@dw.com. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss.
You cannot slip. Just move on.